Retour à notre émission. Donc, on parle de cette action collective des citoyens du secteur de Sennebinck suite à cette inondation en 2010. Et le tout va se transporter en cour à partir du 13 mai. On discute avec le représentant des citoyens, l'avocat Maître Vincent Blais-Fortin. Bonjour.
Bonjour. Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Donc, revenons un peu sur, évidemment, ce qui va se passer le 13 mai prochain suite aux inondations. Donc, il y a eu ce qu'on appelle une action collective ou on disait recours collectif à l'époque suite aux inondations 2010.
C'est exact. Donc, le 13 mai, à Percé, Palais de justice de Percé, en cour supérieure, va s'ouvrir le procès. Il va y avoir 3 semaines ce printemps, sur la semaine du 13 mai, la semaine du 20 mai, ainsi que la semaine du 3 juin. Et ensuite, donc, l'année prochaine, au printemps 2020, il y aura la continuation du procès. Et le 20 mai, le juge va se déplacer sur les lieux pour faire une visite de son évêque.
Bon, alors, ça vient des inondations de 2010. Expliquez-nous un peu cette action collective, dans le fond, qui en fait partie? Ça a touché combien de résidences et un peu l'objet de la poursuite, là?
Donc, en 2010, il y a eu une inondation en décembre 2010, du 13 au 15 décembre. Les poursuivants sont les propriétaires de biens situés à Sennebinck, ainsi que ceux qui étaient des résidents, des occupants, des locataires ou des propriétaires occupants. Et on poursuit donc pour les dommages matériels qui ont été subis, mobiliers ou immobiliers, et également les dommages moraux, les troubles, inconvénients, le temps associé à la réparation des dommages qui ont été subis par la suite de l'inondation. La demande, donc nous, notre prétention, c'est l'effet que le ministère des Transports, en 1977, a complété la construction de la nouvelle route au-dessus de la rivière York, au niveau du boulevard York West. Et lorsqu'il l'a fait, il a commis une faute en construisant une route qui est affectée d'un vice qui empêche l'eau, au moment des crues de la rivière York, de s'évacuer dans la plaine inondable correctement. Donc, c'est pour ça ici qu'il y a une poursuite qui est intentée pour les inondations de 2010.
Donc, c'est un peu là-dessus votre argumentation, c'est que cette route qui est surélevée, parce qu'on l'a surélevée pour mettre le pont qui enjambe la rivière York, fait en sorte, devient un barrage qui empêche l'eau de bien s'écouler.
C'est exact. C'est-à-dire que le pont de 1977 remplace le pont de 1952, qui lui remplaçait une route d'avant construite à l'époque de la colonisation de la Gaspésie. Le pont de 1952 était un petit peu plus haut que la route de la colonisation, mais pas beaucoup. Lorsqu'il y avait des grandes crues, l'eau qui n'était pas capable de passer en dessous du pont, qui donc prenait la plaine inondable d'à peu près 700 mètres, la plaine naturelle, et passait au-dessus de la route. De 1952, ça faisait en sorte que Sennebinck n'était pas inondé. Par contre, à partir de 1977, lorsque le ministère des Transports a construit la nouvelle route, il a effectué effectivement un remblai à certains endroits de plusieurs mètres plus haut. Et ce remblai, qui n'est pas naturel, donc c'est un ouvrage ici humain, qui vient bloquer les eaux. On a installé des ponceaux à certains endroits, mais la capacité hydraulique de ces ponceaux-là pour faire traverser l'eau est insuffisante. La preuve de ça, c'est que, effectivement, comme un barrage, le niveau de l'eau lors des crues, des plus grandes crues, est différent entre l'amont du pont et l'aval. Donc, il va y avoir une différence au niveau des eaux, et donc il retient l'eau. Et étant donné le type de sol qui se retrouve à Sennebinck, cette eau-là va s'infiltrer dans le sol et va ressurgir dans le village de Sennebinck. Il va inonder les sous-sols, la rue, les maisons de Sennebinck.
Bon, il y a combien de demeures qui font partie de ce recours, pas de ce recours, mais de cette action collective?
Pas de liste exacte, vu le modèle québécois en matière d'action collective, mais c'est aux alentours de 200 résidences là, qui sont membres du recours collectif.
Bon, alors vous allez tenter de démontrer qu'il y a une erreur de construction, dans le fond, de la part du ministère des Transports du Québec. Ça va être ça l'enjeu, là.
Oui, au niveau donc de cette... ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une action collective procède en 3 étapes. Il y a eu l'autorisation du recours en 2015. Depuis, on se prépare à ce procès, qui est la 2e étape, et qui exceptionnellement va se dérouler en plusieurs phases. Il y aura ensuite la 3e étape des réclamations des membres individuellement. Cette étape dans laquelle on est, la 2e, Mais oui, effectivement, on va démontrer donc la faute du ministère des Transports. Non seulement donc il y a effectivement une faute dans la construction du pont, mais également une dans son délai là, pour réagir à la problématique. Il y a M. Bruce Patterson qui, dans les années 80, est allé poursuivre le ministère des Transports et la Cour, alors, en 1987, soit il y a plus de 20 ans, a déterminé qu'il y avait eu une problématique avec l'un des avec la construction, soit qu'il y avait eu un défaut d'entretien ou que l'un des ponceaux ne laissait tout simplement pas passer suffisamment d'eau, étant donné la différence des niveaux que je parlais plus tôt.
Donc, c'est pas la première fois qu'on va en justice pour ce dossier-là. Là. Donc, on y est allé en 80.
Oui, le ministère des Transports aurait dû réagir à cette action, certes individuelle de M. Bruce Patterson, mais aurait dû réagir, selon nous, et entreprendre des travaux correctifs sur sa construction beaucoup plus rapidement.
À l'époque, donc en 87, qu'est-ce que le jugement, quel a été le jugement rendu par la Cour à l'époque?
Donc, la Cour provinciale du Québec a retenu la responsabilité du ministère des Transports, a déterminé qu'il y avait soit un défaut d'entretien, soit que le ponceau qui était installé, une partie de la structure, n'avait une capacité insuffisante, ne laissait pas passer assez d'eau. Mm-hmm. Soit le ponceau aurait pu être plus gros, soit on aurait dû enjamber avec un deuxième pont la rivière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les ministères savaient qu'il construisait son pont dans une plaine inondable. Donc, il aurait dû prendre ça en considération lors des choix des caractéristiques de la structure, notamment au niveau de la longueur du remblai.
Vous parliez on se parlait juste avant l'entrevue d'un avis technique qui avait été envoyé même avant les inondations de 2010 pour qu'on répare.
Exact. C'est-à-dire que les membres du groupe ont continué. Vous savez, c'est une petite localité, ils se tiennent serrés. On continuait à mettre de la pression au niveau du ministère des Transports. Il y a eu des rencontres qui ont eu lieu avec des représentants du ministère des Transports. Et en 2009, il y a eu un avis technique qui conclut effectivement qu'il y a une capacité hydraulique insuffisante pour l'un des ponceaux, qui ne laisse pas passer assez d'eau. De ça, façon vulgarisée.
Puis ça, c'est un avis technique du ministère, là.
Tout à fait. C'est un avis technique du ministère. Et ensuite, malheureusement, ils n'ont pas été en mesure de faire, ils n'ont pas fait les travaux assez rapidement pour empêcher l'événement, le sinistre de 2010.
Bon, et ensuite, après 2010, là, on a effectué certains travaux parce qu'il y a un pont de bois qui a été construit et une conduite qui était là, qui a été agrandie, je pense, pour laisser passer justement cette eau, là.
En 2012, il y a eu des travaux qui ont été effectués. On a remplacé un ponceau par un petit pont de bois à six bois, là, proche de Sunnybank, lorsqu'on est sur le boulevard York. Et ce pont-là a une capacité beaucoup plus grande au niveau de l'eau. Il se situe là où il y a un ruisseau naturel qui passe.
Bon, du côté du ministère des Transports, je crois qu'on parle aussi de la quantité d'eau reçue cette journée-là. Entre le 13 et le 15 décembre, là, qui aurait été anormal, on va probablement argumenter là-dessus. C'est ce qu'on semble comprendre, là.
Le ministère des Transports a effectivement déposé donc une expertise au dossier en matière de pluviométrie, donc en matière d'analyse des précipitations qui se sont déroulées du 13 au 15 décembre 2010. Nous sommes en désaccord avec l'expertise là, qui conclut le caractère exceptionnel des précipitations qui sont tombées à ce moment. Et nous avons une contre-expertise qui est en préparation en ce moment, qui serait éventuellement déposée au dossier de la Cour. Mais nous sommes en désaccord avec cette caractérisation du ministère.
Quelles sont les indemnisations qui sont demandées justement dans cette action collective-là pour les personnes touchées?
On demande 5 000 $ par personne qui occupait les lieux lors de l'inondation et également là, 5 000 $ par propriété qui était détenue dans la région par les propriétaires. Et ça, c'est au niveau des dommages moraux. Et aussi, au niveau des dommages moraux, on demande 1 000 par année jusqu'à temps que le problème soit réglé. C'est-à-dire que les membres vivent à chaque année dans la crainte d'être inondés à nouveau en raison du pont, en raison du fait que le ministère ne corrige pas le problème de son pont. Donc, c'est ce qui est demandé au niveau des dommages moraux. Également, les dommages compensatoires qui sont demandés pour les pertes matérielles. C'est-à-dire, quand les gens ont été inondés dans leur sous-sol, à titre d'exemple, ou au rez-de-chaussée, ils ont perdu des biens meubles, ils ont perdu des souvenirs, ils ont perdu toutes sortes de choses. Et également, on demande une compensation au niveau de la perte de valeur des immeubles. Certains membres ont vendu leur maison, certains membres vont vendre leur maison Et le pont, tant qu'il n'est pas réparé, cause une perte de valeur des immeubles du quartier.
Ça pourrait donc atteindre, on parlait de 3 millions à l'époque, plus, j'imagine, aujourd'hui?
Je comprends qu'à l'époque, on vous avait dit le plus ou moins 3 millions. On doit être toujours dans ces chiffres-là aujourd'hui, là.
Bon, et en plus de, si vous gagnez cette cause-là, donc en plus du gain ou des compensations, il faudra effectuer d'autres travaux, selon vous. Donc, il y a d'autres travaux à être faits à cet endroit. Ce que vous réclamez aussi.
La première conclusion du recours, le premier but de ce recours, c'est de régler la problématique. Okay? Donc, le pont de 2012 contribue à régler la problématique dans l'avenir. Mais donc, nos expertises qui sont en préparation en ce moment, je ne peux pas me positionner là, sur les conclusions finales de ces expertises, mais le ministère lui-même a produit au dossier de la Cour une expertise qui conclut au fait que le pont de 2012 n'est pas suffisant pour régler la problématique.
Oui, le pont qu'on a construit après donc l'incident, ce dont on oui. parlait tout à l'heure. Donc, OK, c'est pas
Exactement.
Suffisant, il faudrait en faire un peu plus pour régler
ça. Exact.
Alors, donc, 13 mai, première étape, première audition. Donc, qu'est-ce que vous allez... C'est des témoins. Comment ça va se passer le 13 mai, cette première étape-là?
Effectivement, donc, les témoins vont procéder au niveau du 13 mai. On va commencer avec les témoins de fait, c'est-à-dire, donc, pas les experts, ça va être donc les résidents, les occupants de Sunnybank, ceux des environs, vont venir témoigner dans la semaine du 13 mai et dans la semaine du 20 mai. Et ensuite, s'en suivra également donc, des représentants du ministère au niveau des faits qu'ils ont été constatés. Et l'année prochaine, on entendra les experts sur les problématiques ici.
Très intéressant. On va le suivre, évidemment, ce dossier-là, de cette action collective du comité d'inondation Sunnybank. Maître Vincent Blais-Fortin, merci beaucoup pour toutes ces explications et merci encore pour cet entretien.
Ça fait plaisir.